Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces. Oui, nous attendons sa venue dans la gloire, nous le proclamons à chaque messe, c'est le mystère de la foi, le grand mystère de la foi qui est composé de trois affirmations. La venue de Dieu en ce monde, son incarnation, il est venu, il est né, il a vécu parmi nous, il a connu la mort. L'incarnation, la résurrection, il est ressuscité. Et la grande espérance chrétienne, nous attendons sa venue dans la gloire. Il est bon de le rappeler à quelques jours de la fête du 15 août, que nous fêterons mardi, l'Assomption de la Vierge Marie, qui est la deuxième grande fête de l'espérance chrétienne. La deuxième parce que la première grande fête de l'espérance, c'est l'Ascension. L'Ascension du Seigneur, il est entré au ciel avec notre humanité. C'est la première grande fête. La deuxième grande fête qui nous est souvent plus proche, que nous aimons pas seulement parce que nous aimons la Vierge Marie, c'est l'Assomption, c'est son entrée paisible et directe dans la gloire du ciel. Autant on pouvait se dire que ça pouvait être l'entrée de Jésus au ciel, pouvait être le privilège de sa divinité, autant qu'une créature plus proche de nous que la Vierge Marie entre, c'est formidable et ça nous touche davantage. Et puis la troisième grande fête de l'espérance chrétienne, c'est la Toussaint. On pouvait penser que Marie est entrée directement au ciel parce qu'elle avait été préservée du péché originel. Et voilà qu'il nous est donné de croire que tant d'hommes et de femmes comme nous ont pu, simplement par leur foi, la foi, par leur foi et leur espérance, contempler face à face le Seigneur, entrer dans la joie, la paix et la lumière. Ces trois fêtes de l'espérance ont en France un statut un peu particulier. Elles sont le plus souvent des jours de semaine. Ça sera jeudi pour le 15 août. L'Ascension, c'est un jeudi. À Rome, par exemple, c'est célébré le dimanche, donc c'est une particularité française. L'Ascension, un jeudi, le 15 août, et le 1er novembre pour la Toussaint. Et elles ont ceci de particulier, ces trois fêtes, qu'elles forment avec la fête de Noël le 25 décembre, ce qu'on appelle les quatre fêtes d'obligation, où nous allons, les catholiques se retrouvent à la messe le plus souvent en semaine, sans avoir à se confesser pour pouvoir communier le dimanche suivant. Alors, nous savons tous que nombre de catholiques aujourd'hui ne considèrent plus comme une obligation d'aller à la messe le dimanche, ni aux grands jours de fête. Ils pensent que ça ne se verra pas. Ils pensent que s'ils sont dans une autre église ou qu'ils n'y soient pas, ça ne se verra pas. Ils pensent surtout qu'ils oublient, ils ne croient pas que Dieu les attend, que Dieu nous attend, qu'il nous invite et qu'il nous attend et que c'est son bonheur de nous voir rassemblés, de nous voir présents devant lui pour pouvoir le prier, l'écouter, l'adorer. Alors, où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut aller à la messe le dimanche? Eh bien, dans l'Évangile, soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces. Des noces, parce que c'est la fête de l'amour, parce que c'est le signe de la joie, de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Dieu s'est fait homme, il a connu notre vie, il a connu la mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il viendra dans la gloire pour nous sauver. Ce pardon, ce salut, cette entrée que nous vivrons dans le ciel, n'est-elle pas automatique? Rien de ce qui est humain n'est automatique. Rien de ce qui est l'ordre de l'amour. Si c'est de l'ordre de l'amour, ce n'est pas automatique. Ça nécessite un renouvellement, une personnalisation, une invention permanente. Parce que Dieu créateur est le Dieu de l'amour. Voilà pourquoi l'amour échappera toujours à la science. La science, elle peut expliquer, elle peut reproduire, elle ne peut pas créer. Voilà pourquoi l'amour préférera toujours les artistes, les créateurs, les prophètes, les inspirés, tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit. Alors en priant ce texte d'Évangile, en entendant le passage sur l'intendant qui profite de l'absence de son maître pour frapper serviteurs et servantes, je pensais aux personnes que j'ai rencontrées cette année, que je rencontre si souvent maintenant, qui sont victimes de harcèlement. Ouais. Comme par cet intendant infidèle qui frappe serviteurs et servantes en profitant de l'absence du maître. Je pensais à leur souffrance. Je pensais aussi à leurs bourreaux, ceux qui les font souffrir. Me revenait à l'esprit cette phrase de la Passion du Christ, Vous savez, celui qu'on appelle le bon larron. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu n'as aucun respect des hommes, tu n'as aucune crainte de Dieu. La forme peut-être la plus détestable du harcèlement est scolaire. L'enfant qui est maltraité, harcelé, terrorisé par d'autres enfants. On sait depuis toujours que ça existe dans les familles, ce qu'on appelait des souffres-douleurs. La littérature l'appelait Cosette ou poil de carotte. Et on découvre, on prend conscience aujourd'hui que tout enfant peut être victime. Comme tout enfant peut aussi être bourreau. Toute personne peut se transformer en abuseur. Dans la parabole, il ne faut pas imaginer que le maître, s'il représente Dieu, ne savait pas quel serait l'intendant fidèle ou infidèle. Pourquoi lui a-t-il confié sa maison ? Tant de fois nous entendons « j'ai eu tort de lui faire confiance, j'aurais dû m'en douter, j'ai eu tort ». Nous n'avons jamais tort de faire confiance dans les limites du raisonnable, mais de donner confiance, nous en avons besoin pour vivre, de donner confiance et de recevoir. C'est ce que Dieu fait avec chacun de nous, cette confiance. Alors le harcèlement est une agression qui est basée sur la répétition. C'est ce qui en fait la violence. Et surtout son mécanisme très particulier sur l'espoir. L'espoir sans cesse trompé que ça va s'arrêter. Soit que ça va s'arrêter ou qu'on va trouver enfin le moyen d'y échapper. Ce n'est pas un espoir déçu, c'est un espoir trompé parce que c'est un faux espoir. C'est ça le mécanisme du harcèlement, le faux espoir. Et c'est ce qui rend sa violence si corrosive. Ça finira donc jamais. Si difficile à endiguer parce que pris individuellement, les paroles, les actes ne sont pas forcément dramatiques. C'est leur répétition incessante. C'est ce qui la rend aussi si difficile à endiguer, à arrêter, si facile à contester. Il y a un de mes cousins, exemple banal, il a dû changer son fils d'établissement scolaire pour la rentrée prochaine. Mais quand on relit l'année, c'est tristement banal. Des semaines et des semaines pour comprendre ce qui ne va pas. La situation de tant de parents, des semaines pour comprendre ce qui ne va pas, jusqu'à ce qu'enfin l'enfant puisse parler. La démarche auprès de la directrice, la promesse qu'elle fait que les parents des autres enfants, des soi-disant camarades, seront convoqués, puis vous savez, les interruptions des vacances scolaires, la promesse pas tenue, la confiance perdue. La détresse de l'enfant qui va jusqu'à regretter d'avoir parlé. Alors que c'est vital, c'est indispensable. Ça ne s'arrête pas de soi-même. La détresse des parents devant la faiblesse de l'autorité. C'est son premier rôle d'assurer la sécurité des personnes qui lui sont confiées. Dans tous les domaines du harcèlement, dans le domaine professionnel, une amie, une paroissienne ici, vient d'en faire l'expérience. Elle change de responsable hiérarchique, de patron, qui remet en cause tout ce que son prédécesseur avait mis en place et qui lui met une pression comme on peut en connaître dans tant de lieux de travail. Elle va chercher un recours auprès de la hiérarchie. Ça ne l'intéresse pas, la hiérarchie. Elle dit, du moment qu'on arrive à un résultat, c'est ça qui compte. Ce harcèlement, l'agression typique de notre époque qui raffole de la pression sous toutes ses formes. Le contraire de l'amour, le contraire de Dieu. Aucune pression de la part de Dieu dans l'amour. Dieu nous donne une obligation de comportement, de relation, pas de résultat. Dans le monde animal, le harcèlement, c'est une stratégie de défense qu'on appelle généralement sous le nom de houspillage, mobbing en anglais. C'est par exemple la façon dont des oiseaux vont tournoyer autour d'un intrus pour l'empêcher de s'approcher des nids. Dans le monde animal, c'est une stratégie de défense des animaux faibles. Dans les relations humaines, c'est devenu un mode pervers de domination.
Quel que soit l'objectif, c'est une pratique perverse.
Même s'il s'agit de pouvoir pousser, d'acculer quelqu'un à la démission au départ. Le plaisir de faire le mal. C'est un nouveau nom, pratiquement, pour parler de l'adversaire, le diable. Pas seulement le tentateur, le diviseur, le prédateur. Celui qui s'attaque aux plus faibles, aux proies les plus faibles. Et si nous sommes ici, si nous prions, si nous laissons conduire par le Christ, par l'Esprit Saint, c'est parce que tout l'Évangile, toute la vie chrétienne nous apprend rigoureusement le contraire. À protéger les plus faibles, à faire le bien, à rejeter le mal, même quand il est tentant. Face au harcèlement, il faut parler, il faut couper, parfois partir, s'éloigner. Pour faire le bien, l'Évangile de ce dimanche, la suite, nous rappelle l'importance de ce qu'on appelle le corps social. Sois sans crainte, petit troupeau. Un minimum de sens social, de sens fraternel, communautaire. Les oiseaux y arrivent. Les oiseaux y arrivent. Et les recommandations qui suivent portent sur le partage des biens, le service de nos frères. C'est ça le propre de l'humanité. Le partage et le service. La perversion du harcèlement, c'est le faux espoir, son mécanisme secret, l'espoir que ça, le mal va s'arrêter. Et exactement à l'inverse, c'est ce qui nous rassemble, c'est l'espérance centrée sur le Christ, l'espérance de la gloire. C'est ça l'espérance, son contenu c'est l'amour. Et l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas, dit saint Paul. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.